La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
Ben, on est retourné ici. Bonsoir.
Salut, salut.
On va reprendre avec la deuxième partie de la brochure dédiée à l'enfance.
Partie 2. Rapport d'autorité entre enfants et adultes. 1. Évolution du rapport d'autorité. Il s'agit ici de revenir sur les mutations du rapport d'autorité, notamment celle du père sur l'enfant, depuis l'Antiquité, afin d'inscrire le rapport d'autorité dans sa continuité historique. S'il est ici nécessaire de découper les évolutions par période, ce n'est que pour permettre de les situer dans un mouvement chronologique. Mais la réalité est évidemment plus complexe. Les mutations décrites ici font de valeur que de tendance. Ils ne se succèdent pas, mais au contraire se chevauchent, s'entrelacent et se mêlent. Enfant. Dérive du latin « infance », qui ne parle pas. Depuis l'Antiquité, l'enfant est conçu comme fragile et improductif. Valorisé non pas par ce qu'il, elle, est, mais en tant que descendant ou adulte à venir, et placé sous une autorité paternelle absolue et incontestable. Ainsi, dans toute l'Antiquité, le patriarche a droit de vie et de mort sur femme et enfant, en Grèce comme à Rome. Le rituel de représentation veut que le père prenne dans ses bras le nouveau-né, le reconnaissant comme son, sa descendante. S'il ne le fait pas, et au contraire détourne le regard de l'enfant, celui, celle-ci, est mis à mort, ou abandonné. En Mésopotamie, le père dispose du droit de vendre comme esclave n'importe quel membre de sa famille. La notion de majorité n'existant pas. L'enfant ne s'émancipe pas de l'autorité paternelle. Qu'à la mort de celui-ci, ou au mariage pour les femmes.
Il faut tuer les pères.
L'autorité, encore appelée à Rome puissance paternelle, se justifie par la supériorité naturelle de l'homme.
Pater familias.
Et l'idée d'une mauvaise nature des femmes, comme des enfants. L'autorité du père est redoublée de celle de l'État. À Sparte, les enfants sont enlevés à leur mère dès 7 ans, et leur éducation, axée sur la rigueur et la discipline, est confiée à la cité jusqu'à l'âge de 20 ans pour les garçons.
Au Moyen-Âge, si l'éducation des enfants est l'affaire des femmes, c'est toujours le père qui est garant de la morale et de la discipline, au point que c'est sa propre valeur qui est mise en accusation s'il n'est pas capable de se faire respecter. La norme sociale veut qu'il fasse régner sa loi auprès de sa femme comme de ses enfants, par l'usage de la force physique, si nécessaire, s'il veut éviter honte et déshonneur. Au partir du XVIe siècle, les bouleversements politiques et religieux amènent à un affaiblissement de l'autorité paternelle. Par exemple, l'homme n'est plus jugé responsable en toutes circonstances des agissements de sa femme. Il ne peut plus utiliser la brutalité comme bon lui semble. Oui. Les Lumières tenteront d'amener la notion de respect en substitut à celle d'autorité et de mettre en valeur l'intérêt de l'enfant.
Au XVIIIe siècle, on assiste à une résurgence du modèle autoritaire par la réaffirmation du caractère sacré de l'autorité paternelle. La majorité passe de 14 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles, à 30 ans pour les garçons et 25 ans pour les filles.
Tu seras encore là, hein, mon chéri ?
C'est clair. Certaines politiques réclament alors le rétablissement du droit de vie et de mort sur ces enfants accordés au père. Nice. Le Code civil vient en 1804 confirmer cette tendance en proclamant mineurs l'enfant et la femme, les plaçant sous la tutelle complète du père de famille. Et en instaurant le droit de correction qui permettra au père de faire arrêter ses enfants et demander leur internement dans une prison d'État sans avoir à fournir la moindre justification. Comme ça au moins...
Moi, on n'a pas plus.
Pas de problème.
Voilà.
Dans les milieux bourgeois du 19e siècle, la famille reste le siège de la morale, dont le père est garant. C'est lui qui fixe les grandes orientations de l'éducation, transmet les valeurs. Femme et enfant lui doivent obéissance, aucun désaccord ne saurait être exprimé. Parallèlement, émerge un mouvement de contestation de cette autorité paternelle absolue, articulé notamment autour du châtiment corporel, qui trouvera de nombreux débouchés dans les années 1970 à travers la critique virulente du patriarcat. En association avec l'apport des sciences humaines et l'intérêt central apporté à l'enfant, se crée dans cette décennie l'idée d'une démocratisation de la famille et de son évolution vers une structure plus égalitaire, où les idées de dialogue et de coopération sont mises en avant. Ces dernières années, on remarque que la question de l'autorité est au cœur des préoccupations éducatives. Ainsi, le Monde de l'éducation consacre un dossier de 21 pages à la question de l'autorité, intitulé « Il est permis d'interdire », s'interrogeant sur les moyens de rétablir l'autorité à l'école, de sortir du laxisme, fustigeant l'héritage de mai 68 et les générations d'enfants rois qui en sont nés.
Conflit et manifestation de l'autorité des adultes. Cette partie aborde les conflits entre enfants et adultes et leur déroulement. Et j'entends par conflit une interaction au cours de laquelle un des parties exprime une insatisfaction quant à une situation et réclame son changement. Il s'agit donc bien au-delà des formes exacerbées que sont les disputes du plus simple désaccord. Ainsi, brosse-toi les dents quand l'enfant n'a pas envie, peut-être un conflit. On a donc conflit à chaque fois que l'on est en présence de deux volontés antagonistes. Évidemment. La situation des conflits met particulièrement en relief les rapports d'autorité, puisque nous avons défini cette notion comme capacité à soumettre autrui à sa volonté. Les conflits étudiés ici prennent la structure suivante. L'adulte demande ou exige quelque chose de l'enfant, ce dernier n'a pas envie de s'exécuter conformément à la volonté de l'adulte. Si le schéma inverse existe, à travers des cas où l'enfant manifeste une volonté contradictoire avec celle de l'adulte et que celui-ci répond à l'attente de l'enfant, il ne nous intéresse pas ici, puisque non significatif du rapport d'autorité exercé de l'adulte en direction de l'enfant, qui est notre objet. Il nous semble toutefois que ce genre de cas est d'une nature différente, l'enfant, contrairement à l'adulte, ne disposant pas de réels moyens de coercition.
La majorité des conflits survenant entre enfants et adultes sont caractérisés du rapport et intrinsèquement liés à lui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas des mêmes motifs que dans le cas d'un conflit entre des adultes, mais qu'ils sont spécifiques au statut de l'enfant. Par exemple, le conflit classique à propos du rangement de la chambre n'existe que dans la cellule familiale.
Ah, moi je les connais ça.
Avec nous, c'est ça?
Voilà, ouais, bombe.
Jamais mon colocataire ne viendrait me demander de ranger ma chambre, s'accordant sur le fait qu'il s'agisse de mon espace privé et personnel et que son état ne le concerne en rien. Ils sont donc directement liés au statut de l'enfant. Les motifs de conflit semblent infinis. Parmi les plus récurrents, on trouve les repas, des conflits surviennent quant à l'alimentation et à son contenu, que ce soit à la maison ou à l'école. « J'aime pas les épinards », dit l'enfant en repoussant son assiette. Et bien souvent, la parente le force à manger.
À l'épinard ?
Tu goûtes au moins.
Ou épinard ?
Épinard.
Ah !
Ouais, non, pas pinard. Mais bon, je veux bien du pinard.
Ok, carré.
En reprenant son assiette, et bien souvent, le parent le force à manger. Tu goûtes au moins. Avec tes plus grands, cela devient très fréquent, portant sur la mauvaise alimentation due de la jeune. Dans ce cas, l'adulte insiste à chaque repas pour que l'enfant mange des légumes, des fruits, des crudités. Le travail scolaire, on trouve ici les conflits avec les parents. T'as vu ton bulletin ? Insistant pour que l'enfant travaille mieux, fasse ses devoirs, y consacre plus de temps, ainsi que les conflits avec les enseignants, portant sur les mauvais résultats. Le manque d'attention, les devoirs non faits, etc.
Merci.
Le rangement. Conflit portant sur l'entretien de la chambre, que ce soit avec les parents ou avec des animateurs, animatrices, lors de colonies de vacances. De même que sur le désordre laissé dans les parties communes. Je passe ma vie à tout ramasser derrière lui, me confiait Catherine à propos de son fils de 15 ans. Les activités de loisirs, le temps passé devant la télévision, les jeux vidéo, les sorties entre amis, sont fréquemment l'objet de conflits. Souvent, il est reproché aux enfants d'y consacrer trop de temps, au détriment de choses jugées plus importantes. Les études, la vie familiale, etc. Parfois, c'est l'activité elle-même qui est mise en cause, considérée comme néfaste pour l'enfant. Fumer est un exemple typique, mais c'est également le cas pour une sortie en discothèque, jugée parfois dangereuse. Les conflits entre enfants. Bagarres dans la cour de l'école, disputes entre frères et sœurs sont fréquemment l'objet de l'intervention d'adultes en tant que médiateur, médiatrice. L'autorité elle-même. Il s'agit de tous les conflits trouvant leur origine dans un manque de respect estimé de la part de l'enfant. On trouve ici toutes les fois où un adulte exige d'un enfant qu'il, elle, lui parle autrement, qu'il, elle, s'excuse, qu'il, elle, change d'attitude, cesse d'être insolent.
Obéissance. Un jour, Adrien, 5 ans,
s'en allait de chez moi avec sa mère. Il m'avait dit au revoir, mais ne m'avait pas embrassé, ce que sa mère lui a fait remarquer. Il a eu l'air visiblement gêné, a fait mine de ne pas avoir entendu, il est parti en direction de la porte. Au sang letton, elle lui a dit « Va faire un bisou ». Il s'est exécuté à contre-cœur. La majorité des conflits sont à peine perceptibles puisqu'ils ne se développent pas. L'enfant n'a pas envie de faire la chose demandée par l'adulte, mais l'a fait quand même. Auquel cas, nous sommes bien en présence de volontés antagonistes. C'est probablement ce qui explique que beaucoup d'individus aient du mal à répondre lorsqu'on leur demande de raconter les derniers conflits qu'ils ou elles ont vécu. Peut-être que tous ces moments où l'enfant se plie à la volonté de l'adulte ne sont même pas relevés. Ce type de situation correspond à la définition de l'autorité mobilisée ici, comme forme de pouvoir supposant l'adhésion de son destinataire, sans recours à la coercition. Dans le même ordre d'idées, Mathieu, 12 ans, m'explique que beaucoup de conflits surviennent quand à son travail scolaire. Quand, dans la majorité des cas, lorsque ses parents lui disent d'aller faire ses devoirs et qu'il n'a pas envie, il le fait tout de même. Quand je lui demande pourquoi, il m'explique qu'il préfère éviter la dispute, qu'il reviendrait quasi quotidiennement s'il refusait. De toute façon, je n'ai pas le choix. L'obéissance semble pouvoir reposer sur deux choses. D'une part, la peur de la sanction, dans la mesure où l'enfant sait qu'un refus pourrait le ou la mener à une punition. D'autre part, par la reconnaissance de la légitimité de l'exigence de l'adulte. Bien souvent, l'enfant considère lui et elle-même que l'adulte a raison, et donc il est tout à fait normal qu'il ou elle obéisse. Ainsi, quand je demande à Camille, 6 ans, pourquoi les adultes lui disent de faire des choses alors qu'il n'a pas envie de les faire, ils me répondent « parce qu'ils ont envie que je les fasse, parce que c'est bien de faire ça et il faut le faire ».
Dispute. La dispute survient, dans une minorité des cas, quand l'enfant refuse d'exécuter la volonté exprimée par l'adulte. Dans ce cas, le conflit devient ouvert. Généralement, le conflit monte alors crescendo jusqu'à ce que l'adulte réussisse à faire céder l'enfant par l'un des moyens de pression dont il, elle, dispose. Il est à noter qu'il arrive que l'adulte cède. Il paraît y avoir deux cas de figure. Premièrement, le sujet ne tient pas réellement à cœur à l'adulte et il, elle, estime que l'enjeu ne vaut pas l'énervement causé. Par exemple, au moment du repas, François demande à son fils de 12 ans de manger les brocolis qu'il a laissés de côté. L'enfant refuse catégoriquement. Quelques propos virulents s'ensuivent. Finalement, François met les brocolis dans sa propre assiette en soupirant avec lassitude. Que l'enfant mange ou pas ne semblait pas avoir beaucoup d'importance. Même sans les brocolis, l'assiette était bien remplie et équilibrée. Quand j'ai demandé à François pourquoi il avait cédé, il m'a répondu « Je vais pas commencer à me battre pour tout ». La notion de compromis semble intervenir dans ce genre de situation. Quand l'adulte estime que l'objet n'a pas suffisamment d'importance pour prendre le risque de devoir dégénérer la situation et que la négociation peut permettre d'arriver à une situation qui lui convient. Dans le deuxième cas de figure, l'enfant a une réaction tellement violente que l'adulte semble démuni. Le refus est catégorique et ni la menace ni la punition ne font plier l'enfant. Ce cas semble très rare et se présente apparemment avec peu d'enfants. Un enseignant m'a confié que dans sa carrière, 25 ans, il n'avait été confronté qu'une seule fois à un élève avec qui il n'y avait rien à faire. Les menaces le faisaient rire, les punitions n'étaient pas faites, les retenues se soldaient par une absence. En définitive, l'enfant est passé devant le conseil de discipline et a été exclu de l'établissement. Hop, vacances gagnées.
Peut-être que c'était ce qu'il voulait faire. Menaces et punitions. Continue comme ça et tu seras privé des desserts. Maintenant, ça suffit, sinon on rentre. Puisque c'est comme ça, pas de sortie samedi soir. On peut considérer les deux comme liés, puisque la menace fonctionne par la peur de la punition. L'adulte dispose de tout un arsenal de punitions pour faire plier l'enfant en dernière ressource. Pour l'enseignant enseignante, les outils sont inscrits dans les règlements, retenue, exclusion. Pour les parents, la punition peut être la privation de tout ce dont l'enfant a envie, dessert, TV, sortie, argent des poches, etc. Bien souvent,
La simple menace suffit à modifier l'attitude de l'enfant, parce qu'il ou elle sait que l'adulte peut la mettre à exécution, qu'il ou elle en a les moyens et que lui ou elle même ne peut pas l'empêcher. Le principe de la punition implique une attitude de résignation de l'enfant. Envoyer un ou une enfant dans sa chambre ne rime à rien si l'enfant n'obtempère pas. Il faut qu'il ou elle accepte la punition pour qu'elle fonctionne. Ce qui suppose ici aussi une soumission. On quitte ici les domaines de l'autorité pour entrer dans celui plus vaste du pouvoir et dans l'emploi des moyens de coercition qui peuvent aller jusqu'à la violence physique.
Choix de l'adulte, choix de l'enfant. À la médiathèque, une mère se dispute avec son enfant d'une dizaine d'années. L'enfant veut emprunter un film, mais la mère en avait réservé un autre et veut prendre celui-ci. L'enfant s'énerve et insiste sur le fait qu'il a le droit de choisir son film. Ce à quoi sa mère lui répond qu'il va beaucoup mieux aimer ce film qu'elle a réservé pour lui. L'enfant argumente « Mais je m'en fiche qu'il soit mieux. C'est pas moi qui l'ai choisi.
Voilà. »
En définitive, la mère prendra le film qu'elle a choisi. J'ai observé six conflits entre enfants et adultes portant sur le choix d'un ouvrage cette même après-midi à la médiathèque. Dans 5 des cas, c'est le choix de l'adulte qui l'a emporté, soit par la persuasion, soit par l'imposition. Dans le dernier, l'enfant a crié vraiment très fort, et l'adulte a cédé visiblement exaspéré. D'une manière plus générale, on constate que les parents invitent eux-mêmes les enfants à décider quand il s'agit des faits sur lesquels les parents n'ont pas de préférence. Par exemple, tu préfères des petits pois ou des haricots verts? Tu veux faire de la danse classique ou moderne? Le premier cas de figure, où les choses se compliquent, concerne des éléments qui, comme précédemment, ne concernent pas directement l'adulte, mais renvoient à certaines de ses envies. Par exemple, le choix d'une activité quand la petite fille aimerait bien faire du judo, mais la maman préférerait de la gymnastique. Ou le choix d'un livre quand, précisément, le papa a envie de faire découvrir celui qu'il trouvait si bien à son fils. Dans ces cas-là, l'adulte peut au final forcer l'enfant, sans même s'en rendre compte. Alors que son but était simplement de le conseiller à la base, de l'orienter vers le mieux pour lui, elle. Dans un deuxième type de cas, l'adulte ne tient pas compte de la volonté de l'enfant, parce qu'il ne peut pas le faire ou estime ne pas avoir à le faire. Par exemple, lors d'un déménagement où l'enfant ne serait pas consulté, bien que concerné.
Dissymétrie dans l'interaction verbale. Écoute un peu ce que les adultes te disent. Dans les mots et les femmes, M. Jagel met en avant certaines dissymétries entre hommes et femmes dans l'interaction verbale. En effet, des études portant sur des conversations mixtes montrent que les hommes sont responsables de 98% des interruptions. Waouh, on est fort. De même, leur reviennent les initiatives, les lancements des sujets et les prises des paroles sont plus fréquentes de la part des hommes. Si on regarde du côté de l'interaction entre enfants et adultes, des faits similaires sont observables, la conversation apparaissant effectivement comme fréquemment dissymétrique. Lors de l'interaction entre un ou une enfant et un ou une adulte qui ne se connaissent pas trop, beaucoup d'enfants se montrent timides, réservés, mal à l'aise. C'est dans ce cas-là que l'adulte lance les sujets de conversation. Tu veux faire quoi quand tu seras grand ou grande? Tu es en quelle classe? Et il semble que ce soit lui ou elle qui ait la responsabilité de la poursuite. Enchaîner, veiller à ce qu'il n'y ait pas de silence, etc.
C'est très malaisant.
L'interaction avec un adulte semble donc gênant pour l'enfant, au point que certains la fuient. Ainsi, Julien, 17 ans, bien qu'il la croise régulièrement, n'ose pas dire bonjour à la mère de sa petite amie. Quand elle essaye d'engager la conversation avec lui, il se montre fouillant, se contentant de répondre aux questions posées, ce qu'il explique par une timidité qu'il reconnaît ne pas avoir avec le jeune de son âge. Cela semble moins vrai quand il s'agit d'adultes proches de l'enfant, avec qui c'est lui ou celle-ci entretient des liens affectifs. Toutefois, j'ai eu l'impression qu'il faudrait creuser que si avec leurs proches, les enfants n'hésitent pas à poser une question, à raconter des choses, ils sont moins prompts à engager la conversation sur l'adulte. Questions sur l'activité professionnelle, le lieu de vie, les goûts, etc.
L'observation des interactions mixtes enfants-adultes donne à voir qu'il existe une manière spécifique de s'adresser aux enfants. notamment aux plus petits. Spécifique sur le choix des mots, d'une part, mobilisant des termes simples, des phrases courtes, mais surtout spécifiques, par le ton employé, que je qualifierais d'affectueux condescendant, mais qui me paraît difficile à décrire. Monsieur Yagello note qu'on a tendance à parler aux femmes comme on parle aux enfants, aux immigrés et aux vieillards gâtés. Et c'est effectivement ce ton que tout le monde connaît, que l'on insinue parfois, qui a l'air de s'adresser à quelqu'un qui n'a pas toutes les mêmes facultés de compréhension que le la locutrice, et qui semble constituer l'infériorité de celui, celle, à qui l'on s'adresse. Quand je réfléchissais à cette idée et cherchais un moyen de l'expliquer, je l'ai imité à un ami et lui ai demandé un qualificatif pour le désigner. Le premier qui lui est venu était infantilisant. C'est un ton que souvent les enfants n'apprécient pas. C'est bon, je suis plus un bébé. Tu peux pas me parler normalement. Quand j'ai utilisé ce même ton pour expliquer quelque chose à un ami à moi, il m'a lancé « Arrête de me parler comme un débile ». Il me semble que ce type d'exemple illustre bien en quoi ce ton est perçu comme dévalorisant. Et par les enfants, comme une manière de les renvoyer à une image de tout petit. Voilà, la suite au prochain épisode.
Merci, au revoir.
Salut.